Bonjour Catherine Marnas, vous êtes la metteuse en scène et vous avez adapté le texte de Herculine Barba. Donc vous nous présentez ce soir au Théâtre du Point du Jour Herculine Barbin, archéologie d'une révolution. Alors quand on sort de la pièce, tout de suite on se dit c'est une histoire qui nous serre le cœur, surtout si on la découvre, puisque Herculine Barbin est née en tant que femme et à l'âge de 22 ans on l'a assignée en tant qu'homme.
Oui, effectivement, c'est une histoire très poignante, d'autant plus poignante que quand on joue une pièce de théâtre, c'est de la fiction. Là, on a pleinement conscience qu'on est en train de faire revivre des mots qu'elle a écrits avec ses larmes, avec son sang, parce que ça finit mal. Et que je pense que ce qui est important, c'est cette notion de bouteille à la mer. C'est-à-dire qu'elle a eu le courage. Je dis « elle » parce que je pense quand même qu'elle, elle s'est toujours vécue comme femme et que son malheur, justement, vient de cette attribution arbitraire. À un moment de sa vie, elle qui avait toujours été entourée de femmes, et comme elle le dit, n'est pas du tout préparée à vivre dans le monde des hommes. Et du coup, elle a eu le courage de se dire « quelqu'un me lira ». Elle s'adresse plusieurs fois au lecteur en disant « à ceux qui me liront pour la postérité, je vous demande de ne pas me juger ». Je vous demande de croire en ma sincérité. Je pense que ce qui est très important, c'est cette notion de transmission. C'est-à-dire que ce qu'a fait Michel Foucault quand il est allé dénicher ce texte dans une bibliothèque de médecine, et que lui-même a tenu vraiment à le faire connaître en l'éditant deux fois, en écrivant une préface très très belle, et en rassemblant plein de documents, entre autres les témoignages médicaux, celui qui a été fait de son vivant pour dire qu'il fallait un changement d'état civil, et puis le fameux docteur Tardieu qui a écrit après sa mort, puisque c'est lui qui a fait l'autopsie et qui a écrit cette fameuse thèse sur les hermaphrodites, puisqu'à l'époque c'est ainsi qu'on appelait les intersexes. Donc cette notion de passation, elle est très très importante pour nous, de se dire elle a transmis ça. Foucault l'a fait passer à son tour et nous, on l'incarne. C'est-à-dire que c'est une autre chose que de mettre ces mots dans les corps et dans les émotions d'acteurs, comme si on la faisait revivre, c'est ce qu'on voit au début.
Donc Foucault, c'est un siècle après presque l'exhumation du texte. Et vous, donc, ça vient presque 60 ans après, donc Michel Foucault, voilà. Vous nous disiez tout à l'heure que cette pièce avait du mal à trouver sa promotion.
Oui, on se rend compte, parce que bon, je pense que vous avez aimé le spectacle, je le vois. Vous avez vu les réactions des spectateurs. Je veux dire, c'est un spectacle très émouvant et qui touche beaucoup, beaucoup les spectateurs. Mais néanmoins, les programmateurs ont un peu de frilosité à s'attaquer à ces thèmes-là. C'est vrai qu'il y a eu des exemples de « a-t-on le droit de parler au nom d'eux ?» qui ont fait qu'il y a des spectacles qui ont été annulés, etc. Donc on préfère ne pas toucher à ça, parce que c'est un peu sujet à contestation, on va dire.
Vous nous disiez que c'était l'origine de toutes les questions identitaires actuelles.
Oui, c'est pour ça que j'ai sous-titré « Archéologie d'une révolution », parce que quand Foucault a publié ça, il l'a passé après à Judith Butler aux États-Unis, et c'est à partir de la lecture d'Herculine que Judith Butler a commencé toutes ses études sur le genre. Donc, cette bouteille à la mer dont je parle, c'est finalement l'archéologie de quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec les changements de genre, etc., qui devient de plus en plus visible et qui peut amorcer une vraie mise en cause du patriarcat, donc une mise en cause d'un système global même.
Et puis effectivement, à l'époque, son changement de sexe a eu lieu quand elle avait 22 ans, puisque c'est un médecin qui l'a vu et qui a décidé. Et ce qui pourrait se passer aujourd'hui, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la France a été condamnée par l'ONU à plusieurs reprises, parce que actuellement, encore, les médecins décident à la naissance du sexe de l'enfant.
Oui, on est très en retard en France. Je parle de l'Europe. Hein. En Europe, l'ONU a condamné la France, justement, à cause de ces opérations qui se faisaient, premièrement, en une époque où la personne ne pouvait absolument pas décider de ce qu'elle voulait faire. Et en plus, ce sont des opérations mutilantes, dangereuses pour la santé, alors que ces enfants peuvent tout à fait vivre très bien comme ça. Il y a un intersexe qui s'appelle Vincent Guillot qui témoigne, lui, de la barbarie dont il a été l'objet, c'est-à-dire qu'à la suite de tous ces traitements hormonaux, de tout ça, il est tombé très gravement malade et il est détruit. Donc là, petit à petit, il y avait une médecin hier qui était à la rencontre qui dit qu'ils opèrent de moins en moins à la naissance, comme c'était le cas avant, ils opèrent plutôt à la puberté. Mais néanmoins, ils obligent à choisir. Il y a une grosse pression pour dire « Ah bah oui, mais là maintenant, il faut choisir. » Alors que avant, c'est Foucault qui raconte ça, ce que j'ignorais, c'est qu'avant le 19e siècle, il y avait des tas de, on appelait à l'époque hermaphrodites, qui pouvaient choisir. Alors la seule condition qu'on leur posait, ils pouvaient se marier, etc., c'était de ne pas utiliser les deux sexes. Mais c'est la médecine liée à la normalisation qu'a posée la médecine en complicité avec la loi, l'état civil, etc., qui ont fait que c'est devenu tellement restrictif. Et aujourd'hui encore, on voit bien, par exemple, des sportives qui se font disqualifier parce que, soi-disant, elles ont trop de testostérone. C'est à cette occasion-là que l'athlète en question a découvert qu'elle était intersexe.
On parle, oui, dans la pièce, d'un corps traqué. On s'aperçoit néanmoins à l'écoute des mots d'Herculine Barbin, qu'il ne s'agit pas que d'un corps. On a la Trinité qui est présente, le corps, l'âme et l'esprit, avec une âme tourmentée et un esprit qui se rapproche d'un état de pureté presque.
Oui, parce qu'Herculine était très croyante, qu'elle a été élevée dans les maisons religieuses et que...
J'allais dire proche presque d'une mystique, voilà, oui.
Absolument, ce qu'on entend à la fin, quand dans sa douleur, elle crie qu'elle est d'une essence virginale, elle se compare à un ange, finalement. Elle a cette pureté, et cette pureté l'amène d'ailleurs, je trouve, à quelque chose qui est particulièrement flagrant, c'est une très grande pudeur. L'impudeur dans le spectacle, il est porté par le témoignage du médecin. Mais ça, c'est pas Herculine. C'est ce que Foucault a rassemblé comme document qu'on a mis dans le spectacle, mais ce ne sont pas les propos d'Herculine. Par exemple, quand elle parle de ses problèmes de santé, elle dit jamais que c'est parce qu'elle n'est pas réglée. Quand elle parle des troubles qu'elle a quand elle se retrouve à la suite de l'orage dans les bras de la religieuse nue, elle parle d'un trouble qu'elle ne comprend pas. C'est en fait une érection, mais elle ne le dit pas. Donc tout ça est très pudique.
Le mot qui me revient par rapport à cette pièce, en fait, c'est la grâce, parce que je trouve qu'à la fois il y a la grâce des comédiens, il y a la grâce du texte et aussi le décor avec la musique et ce qu'on voit en fond. Enfin voilà, pour moi, c'est le mot qui résume la pièce.
Alors par rapport au sujet, comme je vous le disais, il y a plusieurs manières d'aborder des questions sur le genre, qui peuvent être militants, qui peuvent être plus porte-drapeau. Moi, j'avais très très envie qu'il y ait une très grande douceur. D'ailleurs, Nicolas Martel, quand je l'ai approché pour jouer dans le spectacle, il m'a dit « Mais alors, il y a Herculine, et moi, je vais jouer quoi ?» Et je lui ai dit « Toi, tu vas jouer la tendresse. » Parce que je trouve que c'est ce que provoque Herculine. C'est-à-dire, si on avait une chose, quand on réfléchit au spectacle, on se dit « C'est pas normal de souffrir et de mourir comme ça pour une telle chose. » Et moi, je disais toujours « On a envie... » de prendre Herculine dans ses bras et de lui dire « c'est pas juste ». Et on a envie de la consoler. Donc c'est ce côté un peu hypnotique presque du spectacle, hein, avec ce mélange de musique, de vidéos qui se changent tout le temps mais sans qu'on voit les changements. C'était cette façon de lui faire un tombeau de douceur, on pourrait le dire comme ça.
Oui, alors on parle de grâce, mais moi, je reviens à cet aspect un peu religieux, hein, parce que c'est une figure christique presque, puisqu'elle a toujours défendu l'amour et elle est morte pour cela.
Oui, mais néanmoins, ce qui est quand même très très étonnant, c'est d'imaginer la souffrance qui a dû être la sienne pour qu'elle transgresse un tabou absolu, qui est le suicide pour la religion. Elle demande pardon, effectivement, mais elle dit « j'en peux plus ». Donc il y a vraiment quelque chose qui l'a... transgresse ce en quoi elle a toujours cru.
Elle parle de, ça revient souvent, c'est lancinant, d'abandon, de mépris, de solitude. Est-ce que c'est pas le propre finalement de personnes, d'individus qui ne trouvent pas leur place dans cette société ou qui sont rejetés de cette société, les rebuts?
Si, bien sûr. Bah, elle dit d'ailleurs hein, qu'elle est regardée comme un monstre. Donc cette différence-là, la rejette, c'est surtout vrai. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle écrit ses mémoires à un moment où elle est déjà malheureuse, où elle est déjà rejetée, où les gens se moquent d'elle, elle se fait jeter de tous les emplois qu'elle a, parce qu'on la trouve étrange, évidemment. Elle est différente. Donc la différence engendre une haine et un rejet absolu, et c'est ce qu'elle vit. Et d'ailleurs, quand elle écrit donc 5 ans avant sa mort, c'est-à-dire 2 ans après son changement d'état civil, les récits du début de sa vie sont heureux. Elle n'arrête pas de le dire. Elle sait qu'elle a en tête le rejet très violent qu'elle subit au moment où elle écrit, mais elle a le souvenir, elle le dit à plein de fois dans le texte. J'étais aimée de mes camarades, j'étais aimée de mes maîtresses d'école. Donc pour elle, c'est des souvenirs de bonheur. D'où le scandale de l'avoir propulsée comme ça dans un sexe qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne reconnaissait pas.
Est-ce qu'il y a des personnes intersexes qui sont venues voir ce spectacle et est-ce que vous avez eu des réactions de ces personnes ?
Oui, de grande gratitude. Parce que vous avez remarqué, on parle beaucoup de transidentité, de transgenre, mais on parle peu des intersexes. Et en général, ils ne le disent pas. Donc ça se vit encore dans une sorte de silence et de tabou quand même. Donc le fait d'en parler au grand jour et face à une communauté, parce que c'est pas rien. C'est pas la lecture d'une page à une seule tête, c'est on l'entend ensemble, ce qui forme communauté. Oui, oui, il y a eu des grandes gratitudes par rapport à ça, oui.
Et on peut parler peut-être des acteurs, et notamment Yu Ming-hae et Nicolas Martel. Alors Yu Ming-hae, c'est vrai qu'il a un corps, un visage et une voix qui prête un peu à confusion.
Oui, mais il se déclare lui-même d'ailleurs non-binaire. Et c'est, pour moi, c'était important, effectivement, que cette parole-là, elle soit portée par quelqu'un. C'est, imaginez que j'ai pris une actrice, par exemple. Quand elle joue le rôle de l'homme, elle aurait inventé quelque chose, fabriqué quelque chose. Pareil, c'est un homme qui joue une femme. Donc là, Yu Ming, il est les deux. Donc il est vrai dans les deux.
Et Nicolas Martel, donc, lui avait demandé de jouer la tendresse, c'est ça ?
Ce qu'il fait magnifiquement.
Vous le connaissiez déjà avant ?
Oui, c'est un de mes anciens élèves du Conservatoire de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il porte le spectacle. De par son attention, de par sa fluidité, de par le rythme. Et ce que je trouve magnifique, et c'est pas pour rien, c'est leur différence physique. C'est-à-dire que Nicolas est quand même très grand,
oui.
Yu Ming petit. Donc j'aime beaucoup cette côté d'une différence. Et en même temps, Nicolas peut être aussi féminin que
oui,
Yu Ming à certains moments.
Il est très maternant, c'est ça, voilà.
Il est très maternant, oui, absolument, et féminin.
Merci beaucoup, Catherine Marnas.
Merci beaucoup.